Salut à tous et bienvenue dans Wedding Podcast, je suis Sébastien Cabanès, photographe et vidéaste de mariage, et j'explore pour vous différentes thématiques autour du monde du mariage. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Wedding Podcast. Aujourd'hui, on va aller une nouvelle fois à la rencontre d'un lieu de réception, parce que je l'ai déjà fait une fois et ça a eu beaucoup de succès, parce que c'est vrai que les lieux de réception, on y est tous les week-ends, mais en même temps, on connaît pas tout, on connaît pas trop les propriétaires parfois, voilà. Donc aujourd'hui, me voilà au château de Vergières avec Delphine Rivière. Salut Delphine.
Bonjour Sébastien.
Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter un peu ce lieu de réception ?
Oui, volontiers. Donc, comme je le disais, je m'appelle Delphine, j'habite et je suis propriétaire du château de Vergières avec mon mari Patrice. On a repris ce domaine il y a 2 ans et demi. Donc, c'est un domaine familial. C'était auparavant mes parents qui géraient ce domaine. Il a appartenu avant mes parents à mes grands-parents et à mes arrière-grands-parents. Donc, l'histoire un petit peu de la famille, mais très succinctement, il ne faut pas que ce soit trop ennuyeux non plus. À l'époque de mes arrière-grands-parents et de mes grands-parents, c'était une maison de campagne. Donc, ils habitaient en ville à Marseille et ils venaient à Vergières le week-end ou quand ils avaient des vacances. Et c'était une exploitation agricole qui était gérée par des ouvriers qui habitaient sur place. Quand ma maman donc en a hérité, mes parents sont venus s'installer sur place, sur le domaine. Donc ils ont repris le domaine et ma maman, elle, qui avait fait des études agricoles, s'occupait essentiellement des terres. Et puis au fil du temps, ils se sont aperçus que l'agriculture, c'était pas quelque chose de vraiment rentable. Ils ont eu envie de changer un petit peu l'activité. Et c'est comme ça que l'idée leur est venue de d'abord ouvrir une maison d'hôtes dans le château. Donc c'était dans les années, il me semble, 90 de mémoire, parce que j'étais là, mais j'étais petite. donc dans les années 90, ils ont ouvert cette maison d'hôtes. Et puis dans les années 94-95, ils ont décidé de convertir d'anciens bâtiments agricoles en salle de réception. Donc c'était l'ancienne cave et les anciennes écuries qu'ils ont transformées en salle de réception.
Et le lieu en lui-même, il a été construit quand ?
Alors, je crois que le château date de la fin du 19e siècle et les bâtiments de ferme également. En revanche, c'est une propriété qui est très ancienne. On a retrouvé des documents, parce que mon papa est fanat de toutes ces informations. Donc, il a retrouvé des documents qui disaient que ce domaine existait déjà au Moyen-Âge. Donc, c'était un lieu où on faisait paître des moutons. Enfin, c'était de l'élevage, apparemment.
Et la construction du château en lui-même ?
Donc fin du 19e siècle, c'est beaucoup plus récent.
Et donc toi, t'as repris la gérance depuis combien de temps ?
Alors ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on est venu s'installer ici avec Patrice. Donc on habitait juste avant dans un petit mas qui est attenant à la propriété. Donc on a échangé de maison avec nos parents.
Super. Je sais pas s'ils ont gagné, mais on...
C'est-à-dire que la vie est différente. Il y a moins de courant d'air dans les petits mas.
Ils sont plus tranquilles.
C'est ça, ils sont plus tranquilles. En fait, ils étaient arrivés à un âge où ils avaient envie de prendre un peu de repos et donc on a pris la suite. On a mis un peu de temps pour prendre la suite parce qu'avec Patrice, donc, on s'est rencontrés dans une école de commerce où on faisait nos études, tous les deux, à Kedge, à Marseille. Donc lui était plus dans le marketing et moi plutôt dans la finance. Donc on a eu quelques années d'expérience avant de tout quitter pour reprendre Vergières.
Et toi, est-ce que tu connaissais un peu le monde du mariage avant ? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais l'habitude ? J'imagine un peu avec tes parents. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça ?
Alors, oui, j'ai beaucoup travaillé avec mes parents. Donc déjà, quand ils ont ouvert leur maison d'hôtes et leur salle de réception, j'habitais sur place. J'étais adolescente. Je les ai pas mal aidés en tant qu'extra. J'ai travaillé avec un traiteur aussi, après, quand j'étais un peu plus âgée. Donc ça, c'était bien aussi, parce que ça m'a permis de connaître ce métier. Et ça me sert beaucoup aujourd'hui. Et puis, il y a quelques années encore, je travaillais dans la région et le week-end, je donnais des petits coups de main à mes parents. Donc, c'est un domaine que je connais plutôt bien. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a pu utiliser nos connaissances liées à nos anciens métiers avec Patrice pour le monde du mariage aussi.
Oui, parce que mine de rien, reprendre un lieu, c'est pas facile, quoi. C'est pas...
Non, puis c'est quelque chose de très complet. Et il faut aussi bien s'occuper des clients que de la comptabilité, de l'entretien du lieu, de la communication. Donc il faut quand même avoir plusieurs cordes à son arc.
Et toi, le monde du mariage, qu'est-ce qui te plaît? Parce que si tu restes, si tu continues, forcément, c'est que ça te plaît un peu.
Bah, ce qui me plaît, c'est de rencontrer du monde, de les prestataires, les mariés. Et puis, c'est quand même un milieu plutôt gay, donc ça, c'est agréable.
Et donc, tu nous as dit qu'il y avait repris suite à tes parents. C'est quoi les principales problématiques lorsqu'on reprend un lieu de réception?
Alors, je pense que pour nous, la tâche est quand même un peu plus aisée parce que, comme je te le disais, je connais par cœur cette propriété. Oui. J'ai grandi et j'ai toujours continué un petit peu à aider mes parents, donc je connais bien le lieu. La difficulté, c'est d'y être tous les jours, parce qu'on habite sur place, donc d'entretenir ce lieu.
Et peut-être, moi c'est peut-être quelque chose que je me dis, c'est peut-être le remettre au goût du jour dans le sens où, je dis pas que tes parents étaient des gros nazes, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est que le milieu du mariage forcément il évolue, il y a la communication qui évolue, tout ça, donc j'imagine que il faut quand même tout remettre bien à plat quand tu reprends ce genre de lieu de réception, non?
Oui, c'est ça, on travaille différemment, c'est-à-dire que mes parents organisaient quand même pas mal de mariages, mais c'était surtout du bouche à oreille qui fonctionnait. Voilà. Maintenant, il faut absolument être sur les réseaux. On a refait un site internet. On communique différemment.
Et un lieu de réception comme le château de Vergières, est-ce que ça demande beaucoup d'entretien? Parce que t'as la partie réception, t'as les chambres. On va en parler plus tard. L'intérieur du château, voilà. J'imagine que c'est un peu dans une vieille bâtisse. Forcément, il y a toujours tout qui demande de l'entretien.
Alors c'est un travail quotidien. Hein, Patrice et moi, tous les jours, on bosse à l'intérieur, à l'extérieur. Chacun sa partie, mais en effet, on a toujours des travaux d'entretien, de maintenance à faire. On essaye d'améliorer. Après, c'est difficile parce que c'est un gros domaine. Il y a le château, mais tout autour, il y a tout un tas de bâtiments annexes, d'anciens bâtiments agricoles. Donc, pour te donner une idée, on a à peu près un hectare de toiture. Donc,
un hectare de toiture qui, forcément, quand tu le répares d'un côté, casse de l'autre.
Voilà, c'est ça. Donc, tu répares une fuite d'un côté, hop, t'as une tuile qui se soulève de l'autre et une petite fuite qui est...
Et oui, parce que tous ces anciens bâtiments comme ça, forcément, ça bouge dans le temps, ça demande de l'entretien, enfin, pour qu'ils soient bien visuellement, mais parce que souvent, c'est vrai que les lieux de réception, on voit que visuellement ils sont bien, mais moi, c'est vrai qu'il y a plein de réceptions dans lesquelles je vais, et quand t'apprends les backstage, en fait, tu te rends compte que pour que visuellement tout aille bien, c'est que ça casse d'un côté, t'es obligé de réparer de l'autre, et après ça repart d'un côté, ça repart de l'autre. Enfin, j'imagine que c'est toujours comme ça.
Alors, le pari est réussi quand toi, tu arrives et que tu dis c'est parfait, c'est qu'on a réussi notre job, on a réussi à maintenir l'illusion que c'est tout le temps comme ça.
Bah oui, mais...
Mais c'est beaucoup de travail en extérieur, surtout parce qu'on a beaucoup de platanes, c'est très vert, on a beaucoup d'arbres, donc il faut en permanence ramasser les feuilles, les écorces.
Ramasser les feuilles, c'est un truc, moi c'est vrai que je le vois dans les lieux de réception quand j'y vais, pas le jour du mariage, mais quand t'arrives, tu te dis toujours « Ah, mais c'est super beau », mais en fait, il y a des feuilles de partout, les platanes, c'est une angoisse permanente.
Et puis c'est une angoisse, pas qu'en automne, on pense que les feuilles tombent qu'en automne, mais c'est pas vrai.
Ouais, en automne, c'est quand même particulièrement...
C'est pire que tout, mais il y en a toute l'année.
Et combien de temps avant les gens ils réservent un lieu de réception?
Alors, nos clients, je pense qu'en moyenne, c'est à peu près 18 mois à l'avance. Certains réservent 2 ans à l'avance et d'autres 3 mois avant, si la date est disponible, tout est possible. 18 mois, c'est plutôt pour nos mariés qui ont des dates vraiment de préférence, des dates...
Enfin, un samedi déjà.
Un samedi et plutôt l'été.
Ouais.
Et puis ceux qui réservent au dernier moment, ce sont des clients qui ne sont pas trop fixés sur la date, qui ont un coup de cœur pour le lieu et qui se marient hors saison en général et donc peuvent se permettre de réserver au dernier moment, quoi.
Et est-ce que tu as des gens, parce que moi ça m'est déjà arrivé, des gens qui viennent, qui te disent par exemple, moi je me marie alors là on est en 2019 au moment où on dit ça, est-ce que je me marie en 2025, quoi? Parce que moi déjà j'ai des gens qui m'ont déjà demandé 3-4 ans avant. Et je leur disais, mais je sais pas, dans 4 ans, je serai peut-être astronaute, j'en sais rien. Enfin, c'est déjà arrivé ce genre de truc?
Oui, ça nous arrive de temps en temps. Donc bon, là, évidemment, 2020, la saison est déjà plus que bien remplie. 2021 commence à être bien remplie aussi. En revanche, moi, pour les demandes qui concernent ne serait-ce que 2022, pas 2025, mais 2022, je leur dis de me recontacter l'année prochaine parce que c'est beaucoup trop tôt pour s'engager. Ou alors, je garde leurs coordonnées et puis quand on commence à prospecter, ben voilà, je les recontacte.
Parce qu'en plus, tu sais jamais ce qui va se passer d'ici 2022, par exemple. Peut-être que tu vas agrandir un truc, faire des travaux.
Exactement,
faire un...
j'espère qu'on aura apporté encore des améliorations au domaine. Et puis, eux, de leur côté, peut-être que des choses vont se passer aussi.
Ouais, voilà,
donc,
c'est
on
ça.
Est toujours à temps de se revoir l'année prochaine. Ça fera encore quand même 2 ans de
ouais,
battement
ce sera
pour organiser le mariage.
Mal, quoi.
C'est pas mal.
Et donc sur le château de Vergières, qui est à Saint-Martin-de-Crau, parce que je pense qu'on ne l'a pas dit dès le début, toi, tu as des hébergements. Déjà, combien tu en as ? Est-ce que pour les mariés, c'est un vrai atout ? Enfin, moi, je pense, mais...
Oui, alors carrément, c'est un atout. Donc dans le château, on a donc 6 chambres et une suite. Donc on peut accueillir entre 14 et je dirais 19 personnes, parce qu'on peut rajouter des petits lits supplémentaires dans certaines chambres.
Ouais.
Et ensuite, on a un dortoir aussi de 8 couchages. Donc là, c'est un peu plus spartiate, c'est des lits superposés, mais c'est toujours bien pour les,
ouais,
les fêtards, ceux qui se couchent en dernier, tu vois.
Ouais, que je ne vois pas, moi je suis parti
ah
avant.
Ah oui, c'est vrai, tu pars avant.
Et les gens, ils restent combien de temps ? Est-ce qu'ils viennent juste le jour J ou est-ce que toi, tu fais des formules un peu sur plusieurs jours, tout ça ?
Alors justement, oui, c'est ce qu'on est en train d'essayer de développer, c'est d'accueillir nos mariés plutôt sur un séjour de 3 jours, plutôt qu'uniquement une soirée le samedi soir. Donc on leur propose d'arriver le vendredi, on organise un cocktail de bienvenue sur la terrasse du château et on héberge donc leurs proches dans les chambres du château. Et ensuite, il y a la journée de samedi avec la préparation des mariés au château, les prestataires qui sont accueillis aussi, donc coiffeurs, maquilleurs, photographes aussi.
Ouais.
Je ne sais pas si toi, tu as déjà participé
dans la journée, préparatif.
Donc après, souvent, il y a une cérémonie dans le jardin, une cérémonie laïque. Ou alors, ils vont à l'église s'ils sont pratiquants et croyants. Puis après la soirée, dans une de nos salles de réception, ils ont le choix entre la grange à foin ou la salle des écuries, ou pourquoi pas l'extérieur s'ils le souhaitent.
Bah oui, oui.
Et puis le lendemain, donc la nuit à nouveau du samedi soir, et le lendemain un brunch avec les proches.
Et ça c'est un truc qui plaît aux gens de rester plusieurs jours, de pas juste venir et le samedi et se barrer quoi.
Bah, ça leur plaît parce que ça fait une vraie parenthèse en fait, et vraiment un moment qu'ils partagent avec leurs plus proches amis ou leur famille, et ça en général ils adorent.
J'ai vu aussi que sur le site que tu proposais aussi des tentes. Est-ce que tu peux nous en parler parce que c'est quand même un truc pas trop commun.
Alors les tentes, c'est un partenariat qu'on a avec un prestataire que les gens de ce secteur connaissent, puisque c'est Wedding Tipeee, c'est une grosse société qui est implantée pas loin d'ici. Donc nous, on met une parcelle à disposition des mariés, et Wedding Tipeee se charge de monter un camp. Donc en fonction du nombre d'invités, on détermine un nombre de tentes, et ils installent tout ça avec toutes les infrastructures nécessaires, comme des toilettes sèches, des douches...
ouais, donc
tout ce qu'il faut pour
c'est
passer une nuit agréable.
Un vrai petit camp sympa. Et tu peux aller jusqu'à combien de personnes, du coup ?
Alors, on n'a pas trop de limites parce que c'est une grosse société, ils ont beaucoup de tentes. Et nous, notre limite, en revanche, c'est 400 personnes.
Oui,
donc
la limite du lieu de réception.
Voilà, la limite d'accueil de notre grange.
Est-ce que tu fais aussi maison d'hôte ou pas du tout ?
Alors, pas du tout. Mes parents, en effet, ont commencé leur reconversion par la maison d'hôte, ce que je te disais en introduction, là, dans le château. Et puis après, en développant l'activité réception, ils ont arrêté celle-ci parce que ce n'est pas tellement compatible, en fait.
Oui.
Les hôtes, en fait, eux qui venaient avaient besoin de calme, alors que les mariés ont envie de faire la fête, ce qui est normal.
C'est tout le projet, ouais.
Voilà, et puis c'est bien, comme tu disais tout à l'heure aussi, d'avoir des chambres disponibles pour les mariés et leurs proches.
Donc les gens qui viennent visiter, les futurs mariés, c'est quoi les critères pour choisir le château de Vergières ? Est-ce qu'ils ont un peu des demandes particulières quand ils viennent ? Comment on choisit un lieu de réception ?
Alors, le premier critère, je pense que c'est pour tout le monde un peu pareil, c'est le coup de cœur. Donc ça, c'est
ouais, ça se contrôle
c'est
pas,
génial.
Quoi.
Ouais, ça se contrôle pas, mais d'un autre côté, ça fait plaisir à tout le monde parce qu'on sent qu'on va bien s'entendre parce que c'est un réel coup de cœur. Le deuxième, c'est une des particularités de Vergières, c'est qu'on peut proposer des solutions de repli quelles que soient les conditions météorologiques. Donc, comme on disait tout à l'heure, il y a plusieurs lieux, donc même si on n'a pas de plan, et
ouais.
Je vais essayer d'expliquer.
Parce que c'est vrai que là du coup, bon, je vous invite à aller voir sur le site internet si vous voulez voir à quoi ressemble le lieu de réception. Mais donc, on a, on a le château, de l'autre côté, on a les salles de réception. Après, on a un grand jardin et on a une grange qui, donc, dont on parlait tout à l'heure, qui peut accueillir jusqu'à 400 personnes.
C'est voilà, ça c'est ça.
Donc, et on a le devant du château aussi.
Voilà, et le jardin qui est devant le château. Donc, comme on n'organise qu'un événement par date, nos clients choisissent le lieu qu'ils souhaitent. En fait, c'est à la carte. Ils peuvent fabriquer leur mariage, choisir le lieu de la cérémonie, choisir le lieu du dîner, de la soirée. Et sachant qu'en cas de mauvais temps, on peut toujours s'abriter soit sous la grange pour la cérémonie, par exemple, soit sur la terrasse couverte pour le cocktail. Enfin, voilà, il y a toujours des possibilités
d'être à l'abri. Et on peut faire la cérémonie laïque devant le château.
On peut faire la cérémonie laïque devant le château ou le cocktail devant le château.
Oui, peu importe. Moi, je voilà, parlais de ça, mais ouais, bien sûr.
Donc, le château étant en arrière-plan et servant de décor pour les photos.
Moi, c'est très bien, très bien.
Ou dans le jardin qui est justement entre la grange et les salles de réception. Imaginez le cocktail dans cet espace-là ou la cérémonie. Il y a plusieurs possibilités. C'est à la carte, en fait.
Et la grange, j'imagine que c'est une vraie plus-value pour les mariés, parce que comme on t'en parlait tout à l'heure, en fait, tu manges à l'extérieur, mais en même temps, t'es pas vraiment à l'extérieur, puisque t'as quand même trois murs et un toit, avec un toit assez haut, donc si les photographes, si vous voulez flasher au plafond, c'est pas possible. Tu me disais qu'il était à combien de mètres ?
11 mètres,
ouais, donc,
sous le faîtage. Donc
voilà.
Donc,
voilà. Mais par contre, c'est vrai que toi, t'as installé en permanence des lustres.
Des lustres, ouais. Et donc ça, c'est un éclairage, mais en même temps, un peu, ça sert de décoration, parce que ça meuble bien l'espace entre le plafond et les tables qui sont dressées pour les convives.
Oui, parce qu'à chaque fois que j'ai mis une photo sur Instagram de la grange, moi, tout le monde m'a toujours dit que c'était trop beau avec les.
Ben merci, écoute, ça fait plaisir.
Avec les lustres. Et donc, par contre, le sol de cette grange, c'est pas bétonné, quoi.
Alors non, c'est du gravier, parce qu'on a voulu garder quand même l'esprit un peu champêtre de la grange, hein, qui sont les anciens hangars à foin. Et donc, ce qu'on préconise, on recommande aux mariés de louer quand même une piste de danse, parce que danser dans le gravier, c'est pas possible, c'est pas agréable.
C'est pas très sexy, quoi.
Non.
Et donc installer un parquet, tout ça, est-ce qu'en termes de prestataire, toi, pour toi, c'est compliqué ou voilà, tout le monde peut faire ça? Enfin, je sais pas, moi, installer un parquet, ça me paraît compliqué, mais en fait,
alors
non, peut-être pas.
Alors je rassure tous mes clients sur ce point-là, c'est vraiment pas compliqué du tout. Il y a des prestataires, notamment ceux qui louent du matériel, table, chaise, ces choses-là, louent aussi des parquets. C'est très facile, enfin, il n'y a rien de compliqué dans l'installation du parquet. Nous, on propose de faire l'intermédiaire entre les mariés et les prestataires et de gérer les livraisons, les installations, les reprises, pour que ce soit le moins de travail et le moins de stress pour eux, en fait, le jour J.
Et un truc dans la grange aussi qui moi, me paraissait peut-être compliqué, mais peut-être tu me diras que ça ne l'est pas aussi, c'est en termes de DJ. C'est vrai que comme le lieu est grand, que le plafond est haut, on peut se dire, moi, j'ai l'impression qu'il faut du matos de fou. Mais peut-être pas, je sais pas, qu'est-ce que toi tu as l'expérience de ça?
Alors ça peut paraître effrayant comme ça, quand on voit le volume, alors moi j'y connais rien dans tout ce qui est son, mais ce que m'ont dit tous les DJ qui sont venus, c'est que le son était bon, apparemment, ça résonne pas,
oui,
il
n'y
a pas de dispersion à l'extérieur, et les plus stressés, ce qu'on a fait avec les plus stressés, donc, c'est qu'on a organisé une visite technique, ils sont venus avec leur matériel et ont fait un essai dans la grange pour s'assurer qu'ils avaient vraiment ce qu'il fallait pour le jour J.
Et ce qui moi me paraît intéressant aussi pour les mariés qui viennent ici, c'est que, donc on avait discuté un peu en off, mais en fait, tu peux faire ce que tu veux. En fait, tu peux faire ta réception dans la grange, tu peux le faire dans le jardin si tu as envie, tu peux faire devant, enfin, tu peux vraiment, c'est vraiment...
Voilà, c'est modulable en fait, en fonction des désirs de chacun. Donc, ce qui est bien, c'est qu'aucun mariage se ressemble. Donc,
ouais,
si
ouais,
toi,
ça,
tu es venu plusieurs fois, ouais, peut-être c'est... que tu as constaté.
Non,
bah
non,
que c'était...
je crois qu'à chaque fois que je suis venu, c'était
voilà,
à chaque fois pas pareil.
C'est pas la même
donc,
formule.
Voilà, ouais.
Donc, ça, c'est. Et puis, même pour nous, c'est agréable d'avoir des mariages différents.
Et du coup, est-ce que les gens, ils profitent du fait que... Est-ce que... C'est un peu bête ce que je dis comme question, mais est-ce qu'ils font un peu tous toujours la même chose? Ou est-ce que, du coup, t'as vraiment des configurations différentes? Ou est-ce que quand il y a des wedding planners, du coup, elles exploitent un peu plus le lieu, elles ont peut-être un peu plus d'imagination, je sais pas?
Alors... Sans dire avoir plus d'imagination, il y a quand même des organisations qui s'y prêtent davantage que d'autres, tombent un peu plus sous le sens, donc c'est souvent ce qui est retenu. Les wedding planners ont des idées aussi, c'est pour ça que c'est bien aussi de ne pas avoir une liste de prestataires imposés, parce
ouais,
ouais. que ça ouvre un peu à des nouveautés, quoi. Chacun venant ajouter
Son petit grain de sel.
Son petit grain de sel, ouais, voilà. Mais on n'a pas eu grand-chose d'extravagant pour l'instant.
Ouais, c'est, tant mieux, j'ai envie de te dire. Et c'est quelle typologie de client qui vient au château de Vergières? C'est des gens d'ici, c'est des gens pas d'ici, c'est quoi?
Alors, je pense qu'on a à peu près un tiers de nos mariés qui sont des gens de la région, qui habitent encore dans la région. Et les deux tiers restants sont des gens qui habitent dans des grandes villes, Paris ou à l'étranger. Donc, une partie d'entre eux a grandi dans le sud de la France et a envie de revenir célébrer son mariage dans le coin. Et puis, l'autre partie est attirée par la Provence, le soleil... Les cigales.
Et les lavandes qu'on n'a pas ici.
Et par contre, il n'y en a pas du tout. Non, mais donc, c'est vrai, j'en parle pas. Non, mais c'est parce les beaux lauriers roses en fleurs, c'est joli aussi quand même.
Le laurier rose en fleurs, vraiment, ils sont super beaux. Et d'ailleurs, moi, je m'en sers à chaque fois pour faire des photos. Voilà. Donc, voilà. Non, je dis ça parce que souvent, les gens ont l'impression que quand ils viennent dans le sud de la France, ils vont avoir des grands champs de lavande, alors que ce n'est pas
c'est
le cas. Ça n'existe pas. Et toi, ta relation avec les mariés tout au long de l'année, c'est quoi? C'est juste quelques mails? T'en as qui t'envoie des mails tous les jours, toutes les nuits? Comment ça se passe avec les futurs mariés?
Alors, c'est vrai que ça dépend vraiment des couples de mariés, hein, mais en général, on échange beaucoup par mail. Certains, dès qu'ils sont dans le coin, on profite pour faire une petite visite. Ils veulent revoir, se projeter un petit peu plus pour la déco, pour faire visiter à leur famille. Voilà. Donc, ça dépend vraiment des mariés. Et puis d'autres dont on n'a pas de nouvelles... pendant des mois et puis quelques semaines avant le mariage, ouais. D'un coup, ça agite un peu. mais ça dépend vraiment, c'est vraiment du cas par cas. Et moi, pour l'instant, il n'y a aucune limite hein, au nombre de rendez-vous.
Moi, j'allais te poser la question parce que c'est chronophage quand même, les visites quand même.
Bah enfin... Oui, mais je comprends qu'on a envie de revenir, de voir, de reposer des questions, de faire visiter...
Donc toi, t'as pas de limite de visite ou ce genre de truc?
Non.
Après s'ils viennent tous les jours, tu vas leur dire
non,
calmez-vous
jours,
quoi.
Non, c'est pas possible.
Mais ouais.
Il faut
ouais,
que ça reste raisonnable.
ouais, mais c'est vrai que c'est important parce que tu les gens ont des questions qui sont forcément légitimes parce que nous on a tellement l'habitude de faire ça qu'au bout d'un moment tout devient naturel, tout
bien
est
sûr.
Normal. Les histoires d'électricité, les histoires d'organisation, mais finalement c'est pas si. Enfin les gens se marient qu'une fois, enfin normalement. Ils sont partis pour faire ça normalement. Et c'est vrai que ça, c'est des questions qui peuvent être légitimes.
Alors pour tout ce qui est technique, on essaye quand même, en général, j'essaye toujours d'organiser une visite technique avec le plus grand nombre de prestataires possible.
Ouais.
Donc là, t'es pas forcément toi assisté.
Non, moi c'est vrai que
les visites
techniques, ça change pas grand chose. Mais c'est vrai que quand il y a des histoires d'électricité, tout ça, c'est quand même bien.
Donc c'est bien qu'il y ait le traiteur, le DJ. Tous ceux qui ont besoin de branchement électrique, des groupes, s'ils interviennent le jour du mariage. Et comme on disait tout à l'heure, comme tous les déroulés de mariage sont différents, puisque les mariés composent leur mariage, c'est forcément des scénarios différents. Donc c'est bien d'organiser la visite technique, justement, pour mettre au point tous ces petits points-là.
Et est-ce que tu as déjà eu des demandes un peu bizarres, un peu des anecdotes à nous raconter par rapport aux demandes des mariés?
Ben, je ne sais pas trop si j'ose te raconter.
Ah, si tu peux, fais-nous plaisir.
Alors, l'année dernière, j'étais donc en train de faire mes courses et je reçois un coup de téléphone d'un numéro masqué, donc je réponds. Et là, c'était la sœur d'une des mariées qui me dit « Voilà, j'ai une demande un peu particulière à vous faire. Je voudrais faire plaisir à ma sœur, mais c'est un peu spécial. Donc, je voudrais qu'elle soit accueillie à la sortie du château par une licorne. » Donc là, grand blanc. Donc je lui dis, alors on est bien d'accord, la licorne n'est pas un animal vivant. Donc concrètement, votre licorne, elle sera comment en carton
Ouais, c'est vrai que c'est une question légitime. Hein,
Je voyais pas trop, tu vois. Et donc elle me dit, non, mais vous inquiétez pas, je me suis mise d'accord avec un propriétaire, il a un cheval, il va venir avec son cheval, je voulais juste votre accord pour que le cheval soit devant le château, attendre ma sœur et l'accompagne jusqu'à la cérémonie laïque. Donc c'est ce qu'elle a fait, elle avait préparé un petit, tu vois, les petits bonnets là, qu'on met sur les oreilles des chevaux, avec une corne en carton. Et donc le cheval était paré de ses artifices de licorne et a attendu la mariée en bas devant la porte du château.
C'est vrai que là, t'es pas prêt quand tu reçois cette demande.
Non, t'es pas prêt. D'un autre côté, je trouvais ça une demande un peu saugrenue au départ. Et puis quand j'ai vu le plaisir que ça faisait à la mariée, j'étais contente que ça ait eu lieu, quoi.
Et Toi, c'est quoi ta relation avec les prestataires tout le jour du mariage, tout ça? Parce que c'est vrai que moi, je vais dans plusieurs lieux de réception, hein, j'en fais plein, et c'est vrai qu'il y a plein de fois où les propriétaires, je les vois pas, ou je leur parle pas, ou c'est pas une volonté de ma part, parce qu'en plus, moi, j'ai la tchatche facile, mais...
Oui.
Mais c'est vrai que je les vois pas, je leur parle pas, et bon, c'est vrai que toi, à chaque fois que j'étais bien accueilli, alors j'imagine que c'est pas que moi, voilà, voilà, c'est quoi ta relation un peu avec les prestataires quand ils viennent sur le lieu?
Donc, au risque de te décevoir, c'est vrai que j'aime bien accueillir les différents prestataires.
Ah, je pensais que c'était que moi, je vais me casser.
Non, mais toi, t'as un régime spécial, ouais, mais quand même.
Ça va.
Non, j'aime bien être là quand tout le monde arrive. Donc, alors après, c'est vrai, c'est différent s'il y a une wedding planner qui est sur place et qui se charge aussi d'accueillir les prestataires, mais quoi qu'il en soit, moi, je suis toujours dans le coin. J'aime bien m'assurer que tout se passe comme prévu, comme les mariés le souhaitent, que tout le monde soit bien installé et qu'on passe une bonne journée.
Et est-ce que tu conseilles des différents prestataires en différents corps de métier? Est-ce que les mariés sont demandeurs de ça? Est-ce que c'est toi qui est la première à donner des noms? Comment ça se passe un peu?
Oui, alors en général, quand les mariés nous rencontrent, ils sont au début de leur démarche, puisque
oui,
c'est souvent
premier,
le lieu qui est réservé en premier.
Qui détermine tout, quoi.
Voilà, la date, mais aussi le choix des prestataires, parce que les lieux, on ne fonctionne pas tous pareil. Donc tant qu'ils n'ont pas trouvé le lieu, ils ne s'engagent pas avec d'autres prestataires.
Oui, parce qu'il y a des lieux qui imposent des traiteurs, qui imposent tout plein de trucs, hein, pas que des traiteurs d'ailleurs. Mais,
ils ont des prestations intégrées à leur proposition. Voilà. Quand les mariés... Donc, s'engage avec nous. En général, je leur fournis une liste de prestataires partenaires, donc de prestataires qu'on apprécie particulièrement. Et donc, on fait des recommandations, mais il n'y a aucun prestataire imposé, en fait.
Ouais, parce que c'était ma prochaine question, en fait. Est-ce que tu imposes des prestataires ou est-ce que, bon, bah, pour l'instant, tout va bien, quoi?
Alors, pour l'instant, non. Mais je pense que très prochainement, nous allons fournir une liste, notamment pour les traiteurs, de traiteurs. Alors, ce sera une liste assez large, hein. Je pense qu'il y aura une quinzaine d'adresses dedans. Et on demandera aux mariés de choisir parmi ces gens-là, parce qu'on a eu une mauvaise expérience cet été. On ne voudrait pas reconduire.
Et toi, alors c'est un peu une question punchline, mais toi, le jour du mariage, tu fais quoi?
Je bois des coups ou pas? Non. Alors, le jour du mariage, comme je te le disais tout à l'heure, on accueille un petit peu les différents prestataires. Ensuite, on accueille les mariés quand ils arrivent. Très souvent, comme les mariés et leurs invités ont réservé des chambres, donc on leur indique leur chambre aussi.
Oui, parce que moi j'ai déjà vu ça, ouais. les gens sont très demandeurs. Le premier truc, ils arrivent, les chambres.
Et ils veulent les chambres, et puis même si on n'est plus maison d'hôte, on fonctionne comme une maison d'hôte avec eux, c'est-à-dire qu'ils se sentent un peu chez eux, et donc ils ont toujours besoin d'un sèche-cheveux, d'un fer à repasser, d'une aiguille, parce qu'il y a un bouton qui s'est décousu au dernier moment. Enfin, donc on est là pour les accompagner, en fait, pour qu'ils soient prêts pour la soirée. Au fil de la soirée, écoute, on fait comme tu nous vois de temps en temps, on fait des petits passages, on s'assure que tout va bien, on vérifie que les toilettes soient propres, qu'il y ait du papier, ces choses-là.
Ouais, c'est vrai, hein, que c'est vrai, parce que le papier ne se met pas tout seul dans les toilettes.
Je
vrai,
confirme.
C'est incroyable.
Voilà, en gros, bon, c'est déjà le jour J, quoi.
C'est déjà pas mal. Et un truc auquel moi je suis confronté quand je vais dans les lieux de réception, c'est est-ce que tu as beaucoup de dégradation dans un lieu de réception? Parce que je vois les gens qui mettent les pieds sur les murs, qui tapent un peu n'importe où et tout. Enfin, et je me dis, à la fin de la saison, ça doit être un carnage. Je sais pas si toi t'as ce genre de truc ou pas.
Bon, j'espère que t'as pas vu ça chez nous.
Non, mais en fait, je sais pas si j'ai vu ça chez vous, mais probablement parce qu'en fait, le truc, c'est que, je veux dire, un truc bête, mais tu mets pas les pieds sur le mur chez toi, et alors que dans un lieu de réception, tu le fais. Enfin, moi, je comprends pas, ou tu t'assois pas sur la clim, ou quand elle est au sol, enfin, ce genre de choses. Et c'est vrai que moi, dans tous les lieux de réception que je vois, des fois, je vois des invités, c'est pas la faute des mariés, attention, hein, mais je vois des invités, j'ai envie d'aller leur taper dans le pied qui est sur le mur, ou des trucs comme ça. Est-ce que toi, en termes d'entretien, c'est lourd ou pas après une saison?
C'est vrai qu'on a toujours un peu d'entretien à faire après chaque réception, hein, petites choses à réparer. En hors saison, on fait beaucoup de peinture.
Ouais, bah j'imagine, parce qu'en voilà. termes de traces de pied, ça voilà, doit y aller. Voilà,
traces de pied. Bon, après ça, c'est pas grave. Je dirais c'est l'usure due à l'utilisation des lieux. Si c'est juste des traces de pied, c'est pas grave. Mais le fait qu'on soit présent, je pense aussi que les gens sont plus respectueux. Le fait qu'ils nous connaissent, qu'ils nous rencontrent. Notamment dans le château, on n'a jamais de problème de dégradation parce que les gens sont dans notre maison, donc ils se rendent, voilà, ils sentent qu'ils sont chez quelqu'un, c'est pas comme à l'hôtel, donc on n'a pas trop de dégradation.
Et j'ai l'impression aussi que quand on vient ici, on voit que vous l'aimez bien le lieu, enfin, je sais pas, et du coup, t'as plus tendance à faire attention, je sais pas si c'est un sentiment qu'ont les gens ou pas.
Bah écoute, j'espère, en tout cas, ils sentent qu'ils sont accueillis chez nous et que c'est pas un lieu impersonnel, une salle qu'ils ont louée, donc je pense qu'ils sont plus respectueux pour ces raisons-là, ouais.
Et les gens, ils mangent plus souvent, parce qu'on va rappeler que donc tu peux manger dehors, t'as la grange, tout ça, et t'as aussi une salle de réception dedans qui accueille, ouais. Qui accueille combien ?
Jusqu'à 180 personnes assises avec un espace de danse.
Et est-ce qu'ils mangent plus ? T'as plus de mariage dehors, t'as plus de mariage dedans ? Comment ça se passe ?
Alors déjà la grange, on ne la loue que l'été, de mi-juin à mi-septembre, puisque comme on disait tout à l'heure, elle est toute verte sur le jardin, donc hors ces dates-là, il fait trop frais le soir pour dîner en extérieur. Donc de fait, on loue plus notre salle intérieure qu'on appelle les écuries, parce que justement, on peut la louer toute l'année. Et comme les mariages maintenant s'étalent de plus en plus, on commence en avril et on en a jusqu'à fin octobre. Et là, on a eu des mariages en décembre aussi.
Et un truc auquel je pense en discutant avec toi, c'est que, en fait, au château de Vergières, on peut danser, faire du bruit dehors. Et ça, c'est vraiment un truc qui est devenu de plus en plus rare. Comment ça se fait ?
Parce qu'on a la chance d'être en pleine campagne, donc on n'a pas de réels voisins directs, donc il est possible de faire la fête en extérieur.
Donc, donc tu peux faire de la piste de danse dans la grange, dans mais la tu peux grange. Aussi manger dehors, enfin tu peux tout faire dehors.
Exactement, on peut imaginer dîner sous la grange et mettre la piste de danse sur la pelouse qui est à côté de la grange pour danser, ou entièrement dîner à l'extérieur et danser à l'extérieur en se disant que si jamais il fait pas beau, il y a la grange en backup.
Ouais, ça c'est important parce que des fois moi je vais dans des lieux de réception, les gens me disent on va manger dehors, je leur dis ouais mais prévoyez une tente parce que si jamais il fait pas beau, parce que les gens ont toujours l'impression qu'en Provence il va faire toujours beau, mais des fois il pleut un tout petit peu ou il y a un peu de vent.
Ouais, c'est pas trop la pluie, c'est plutôt le mistral.
Ouais, un peu de vent, l'été, un peu de machin, et ça peut vite être compliqué. Et c'est vrai qu'ici c'est un des rares lieux de réception, si ce n'est peut-être le seul que moi j'ai dans le coin, je sais pas, où tu peux danser, faire du bruit dehors jusqu'au bout de la nuit.
Jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à 4h du matin pour nous.
Ouais, jusqu'au bout de la nuit à 4h du matin, qui est déjà c'est le ça. Bout de la nuit.
C'est bien avancé quand même.
Et donc on parle justement des horaires, tout ça. Est-ce que toi, t'as des exigences, t'as des limitations ? Est-ce que t'as fixé un peu des trucs ? Parce que c'est vrai qu'un lieu de réception, c'est à la fois un lieu qu'on loue quand on se marie, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Donc là, tu viens de parler par exemple de la limite de temps. Est-ce que t'as d'autres exigences comme ça ?
Alors, oui. Donc, on a des horaires qui sont liés donc aux invités et des horaires pour les prestataires qui ne sont pas les mêmes.
Oui.
Par exemple, le samedi, imaginons que le mariage se déroule le samedi, on propose aux mariés d'accueillir leurs invités à partir de 16h et jusqu'à 4h du matin. On demande l'arrêt de la musique. Après, il y a encore une heure pour les prestataires pour ranger leur matériel. Oui. Les prestataires peuvent venir le samedi matin s'ils ont besoin de venir le samedi matin.
Ouais, parce que si tu dois installer si t'as une grosse install ou un truc comme ça.
Voilà. Et un gros plus chez nous, c'est qu'on met toujours le lieu à disposition la veille du mariage, donc le vendredi, là, dans notre exemple, entre 9h et 18h, donc pour les prestataires et les mariés, s'ils souhaitent décorer, organiser des livraisons. C'est possible la veille du mariage.
Mais est-ce que du coup, parce que ça me fait penser à un autre truc que j'ai déjà vu sur d'autres lieux de réception, du coup, toi, si tu fais ça, tu peux pas enchaîner un mariage le vendredi et un mariage le samedi ?
Non, mais comme je te le disais tout à l'heure, nous, notre objectif, c'est d'accueillir nos mariés 3 jours.
Ouais.
Donc, dans ce cadre-là, notre organisation, ça s'y prête, quoi.
Oui, parce qu'il y a des lieux
Ils arrivent le vendredi soir et...
Oui, il y a des lieux de réception qui font des mariages le vendredi, des mariages le samedi. Et c'est vrai que des fois, ils ont le souci des prestataires qui doivent faire une grosse install le vendredi et qui ne peuvent pas parce qu'il y a un autre mariage. C'est vrai que vu que toi t'accueilles les gens 3 jours, c'est aussi un truc bien pour les mariés, mais je pense pour les prestataires c'est quand même un peu plus cool quoi.
Ouais, travailler dans des conditions plus agréables, d'avoir le temps de s'installer.
Parce que mine de rien, si t'es 400 dans la grange, t'as 2-3 tables installées, t'as 2-3... Et d'ailleurs, le mobilier, c'est toi qui le fournis ou c'est...
Alors, on fournit, on propose, c'est pas compris dans la prestation de base, on propose du matériel, des tables et des chaises pour la salle, les écuries qui est intérieure. En revanche, pour la grange, on n'a pas de matériel. Donc, on passe par des loueurs.
Ouais, et ça, c'est pareil, tu aiguilles les mariés un peu pour ce genre de truc.
Alors, je les aiguille, mais certains, ceux qui le souhaitent, je les aide énormément. C'est-à-dire que je les aide à faire des devis, calculer le nombre de tables, je leur propose des configurations qu'on a déjà faites, je leur montre des photos.
Ouais, parce que mine de rien, quand tu viens la visiter, la grange, elle est vide.
Ouais.
Et c'est à la fois, tu te dis, on peut faire plein de trucs dedans, et à la fois...
Il faut avoir de l'imagination. Donc très souvent, je leur propose de revenir l'année de leur mariage à une date où j'ai un événement.
Ah ouais, donc ça c'est pas mal.
Pour qu'ils aient une petite idée de ce que ça donne une fois meublé.
Parce que c'est un truc aussi, les lieux de réception, enfin je sais pas toi comment tu gères ça, mais moi je les vois toujours tout bien, propre, tout décoré, machin. Mais je me dis, quand tu dois visiter un lieu, ça doit être compliqué, non?
Il faut arriver à se projeter, surtout les gens qui visitent en hiver, c'est encore plus compliqué.
Ouais, parce qu'en hiver, ça fait, même si c'est beau,
pas le même effet,
hein. C'est pas le même, voilà, t'as pas le même effet waouh, quoi.
Ouais. Donc là, je leur dis, si ça vous plaît en hiver, vous allez être complètement sous le charme en été, il n'y a pas de problème.
Ouais.
Bien sûr, on leur montre des photos de mariages qu'on a réalisés. Et puis, je te dis, en général, j'essaye de leur proposer de revenir à une date où il y a un événement, et pour qu'ils se rendent compte de la disposition, de la décoration. Ça leur donne toujours des idées.
Ne serait-ce que les lustres, parce qu'on n'en a pas parlé, les lustres, ouais, qui sont dans la grange, qui, moi, à chaque fois que je mets une photo sur Instagram, font un effet waouh. C'est quand même beau quand c'est tout.
Alors,
bien.
Je les éclaire, hein, pour les visites quand même, déjà, pour que les gens aient une petite idée de ce que ça donne. Alors ça, c'est des lustres, figure-toi, qu'on avait fait fabriquer pour notre mariage avec Patrice.
Ah ouais.
Et qu'on a laissé. Donc c'était il y a presque 20 ans, et comme ils ont beaucoup de succès, on en fait profiter dans
Marie. C'est vrai qu'à chaque fois que moi je mets une photo sur Instagram de cette grange avec ses lustres, tout le monde me dit waouh, c'est trop beau quoi. Donc,
non mais c'est bien, parce que comme on disait tout à l'heure, le plafond est assez haut, donc ça permet de meubler cet espace entre le toit, la charpente et les tables qui sont dressées pour le dîner.
Là, on a parlé un peu du jour J, comment ça se passe tout ça. Mais toi, en tant que salle de réception, en termes de communication, comment tu communiques pour que les gens ils te trouvent, pour que parce qu'il y a plein de salles. Comment ils tombent sur toi en fait?
Alors, on passe par, comme tout le monde, je suppose, par des réseaux comme mariage.net, des plateformes de réservation.
Des plateformes, voilà. Ouais.
Ou alors par les réseaux sociaux, on a des pages qui sont relativement à jour, c'est ce qui est pratique quand même, parce qu'on peut mettre des photos assez récentes, et pas mal de nos mariés nous trouvent grâce à Instagram maintenant, je pense.
Est-ce que toi aujourd'hui, les réseaux sociaux et ce genre de choses, est-ce que c'est une partie intégrante de ton boulot? Parce qu'on a l'impression que voilà, on met 3 photos comme ça, ça va bien se passer, mais moi aujourd'hui j'ai l'impression que faire des réseaux sociaux, j'en ai parlé dans d'autres émissions, ça fait partie intégrante du boulot. Est-ce que toi, c'est le cas aujourd'hui?
Ah oui, carrément. Moi, j'essaye de m'y tenir. J'essaye d'avoir une régularité dans mes publications. J'ai aussi énormément suivi tes conseils. J'ai bien écouté le podcast sur Instagram. J'essaye d'avoir des photos de qualité, d'avoir toujours un message à faire passer à chaque photo, d'essayer de montrer tout ce qu'on peut proposer à Vergère sur les photos. Les différentes prestations, les différents lieux, donc la grange, les écuries. J'essaye vraiment que ça ait un sens, quoi.
Et est-ce que, alors question compliquée, pas compliquée, mais est-ce que toi tu galères à récupérer les photos, ce genre de choses, à avoir des photos? Parce que, alors amis photographes, écoutez-moi, parce que moi j'ai plein de lieux de réception qui me disent à chaque fois qu'ils galèrent un peu à récupérer. Est-ce que toi c'est ton cas ou pas du tout?
Alors oui, c'est pas évident, parce que pour l'instant, les mariés ne sont obligés en rien à me donner leurs photos. J'apprécie quand ils m'autorisent à publier certaines de leurs photos, parce que, comme on l'a souvent dit tous les deux, ils nous ont trouvés parce qu'ils ont vu de belles photos du domaine.
Ah ben, moi, c'est ce que je dis aux gens. Si vous voyez rien, c'est vrai que moi je dis aux gens, et on en avait discuté une fois, si vous aviez pas vu mes images, vous m'auriez pas pris. Donc ouais, à partir de là.
Pareil pour nous, donc sauf qu'en plus nous il faut qu'on ait voilà cette autorisation. Ça paraît moins évident que le photographe le fait qu'on publie leurs photos de mariage, mais c'est quand même bien que certains nous donnent leurs photos, parce qu'on a beau publier des photos des lieux vides, c'est quand même sympa d'avoir aussi les lieux animés avec des invités,
ouais, bien sûr.
Des mariés. On se projette toujours un peu mieux quand on a un exemple concret, quoi.
Et une problématique qu'ont beaucoup d'autres lieux de réception, tu vas me dire à toi si c'est ton cas, en fait souvent les lieux de réception ils remplissent bien en mariage, c'est assez facile de, enfin c'est facile, c'est jamais rien n'est facile, mais ce que je veux dire c'est que ça se remplit assez correctement les mariages, et souvent les lieux de réception que je connais ont beaucoup de problèmes pour faire d'autres choses que du mariage. Est-ce que toi c'est ton cas? Est-ce que tu fais d'autres choses à Vergières que du mariage?
Alors oui, on fait autre chose. Donc on fait notamment, on accueille des professionnels pour des séminaires, des journées à la campagne, des journées mises au vert un peu. Donc ça en effet c'est plus difficile de les contacter et de les attirer. Parce qu'on est en pleine campagne et que c'est des formats un peu particuliers dont ils n'ont pas forcément l'habitude en entreprise. Donc ça, c'est vraiment un point qu'on aimerait développer davantage. On a la chance aussi de faire autre chose, notamment des tournages de films ou de...
Ah ouais, ouais, c'est vrai que c'est
la réalité, j'ose pas trop le dire, mais...
Non, mais après, c'est un truc comme un autre.
C'était très agréable, ouais. C'est une émission sympathique.
Bah oui, non, mais bien sûr.
Et puis des shootings photos aussi pour des marques de vêtements, des marques de voitures, des choses comme ça.
Est-ce que c'est important pour toi de te diversifier quand même, de faire autre chose que du mariage, quoi?
Oui, c'est important parce que comme tu le disais, le mariage c'est quand même essentiellement l'été, même si ça a tendance un petit peu à s'étaler. Nous, on a besoin d'avoir une activité un peu plus soutenue, donc c'est bien aussi d'avoir des réceptions en semaine et en période un peu plus creuse. Donc on essaye de trouver de nouvelles activités, mais bon, on a quelques pistes là pour les années à venir. On voudrait notamment organiser des week-ends déconnectés.
Ouais, c'est vrai qu'il faut, mais fait, il faut que tu coupes les antennes de 4G qu'il y a autour. Hein.
Ouais, mais non, c'est-à-dire que quand... parce qu'on travaille en partenariat avec une association qui s'appelle Out of Reach.
D'accord.
Et donc en fait, l'idée, c'est que quand vous viendrez pour un week-end à Vergières, un week-end déconnecté, Digital Detox donc,
ouais.
On vous accueillera avec un petit cocktail et en même temps, vous nous remettrez vos objets connectés.
Oh là 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 là.
Et après, on s'occupe de vous pendant 2 jours. Il y aura des activités, des choses à découvrir, de bons repas, mais sans écran.
Ah, ça c'est plutôt.
Ça
te
ferait du bien, non?
Ouais, je crois.
Je te garde une place en VIP.
Ouais, je crois que tu peux. Je crois que tu peux. Donc on arrive au bout de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous avez un peu une nouvelle fois vu les backstage des lieux de réception dans lesquels vous allez tous les week-ends et futurs mariés si vous avez entendu cette émission. J'espère que vous avez également appris des choses. Vous pouvez retrouver le podcast sur n'importe quelle application de podcast et sur weddingpodcast.fr. Je vous invite aussi à rejoindre le groupe Facebook Wedding Podcast où j'échange un peu avec les intervenants, avec les participants. Donc vraiment, si vous appréciez le podcast, vous pouvez y participer. Vous pouvez aussi me mettre une petite note sur iTunes si vous appréciez le podcast, ça m'aide pas mal. Merci Delphine d'avoir participé à cette émission.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission.